Et bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver en cette nouvelle année sur Vague FM, bonne année à tous. Et je suis avec Annick, cette année encore, bonjour
oui,
Annick.
Oui, bonjour François, bonne année à toi.
Et bah, bonne année également, et comme l'année dernière, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Madame Caroline Janvier, députée de La République En Marche de la deuxième circonscription du Loiret. Bonjour Madame la députée.
Bonjour, bonjour et bonne année à vous.
Et bah, bonne année au nom de Vague FM, et merci de nous accorder un petit peu de temps sur notre radio. Alors, le 17 juin 2017, vous vous en rappelez, emporté par la vague La République En Marche, novice en politique, je crois, vous deveniez député de la deuxième circonscription du Loiret, succédant au candidat sortant les Républicains et maire d'Orléans, Serge Grouard. Alors, en quelques mots, comment se sont passées ces 5 années de votre mandat ?
Eh bien, écoutez, c'était très riche, très dense, avec déjà des années qui ont été très denses aussi pour les Français. Hein. On se souvient de la séquence des Gilets jaunes, d'un certain nombre de mouvements sociaux parfois très durs, et puis surtout cette crise sanitaire que nous vivons encore. Et pour moi, eh bien, c'était beaucoup de découvertes, beaucoup de rencontres, à la fois dans cette deuxième circonscription du Loiret, qui est une belle circonscription, hein, qui associe à la fois un environnement urbain, la ville d'Orléans, l'agglomération également d'Orléans, et un certain nombre de communes plus rurales. Donc c'est une circonscription qui est très diverse et dans laquelle j'ai pu travailler sur des sujets très différents. Et en même temps, évidemment, le travail législatif à Paris. Et je trouve que l'intérêt, c'est justement de combiner des rencontres, des visites, des échanges en circonscription et des sujets que l'on porte ensuite à Paris.
Alors vous en parliez, un mandat plutôt mouvementé, puisque vous avez dû faire face à plusieurs crises, et vous en avez parlé, celle des Gilets jaunes, qui a commencé en novembre 2018. Vous en avez d'ailleurs, vous êtes allé à la rencontre de ces Gilets jaunes. Quelle a été votre réaction, vos sentiments à ce moment-là ?
Écoutez, c'est une séquence qui m'a beaucoup marquée, parce que il y avait un niveau de violence qui était très fort et qui, je crois, a frappé aussi beaucoup de Français. Et ce qui m'a vraiment le plus frappé, je crois, c'est cette défiance très forte qu'on retrouve aujourd'hui un peu chez certains antivax. C'est-à-dire, vous êtes face à des personnes avec lesquelles vous n'avez plus de référentiel, plus de grille de lecture commune, et c'est très compliqué de trouver un terrain, non pas d'accord, mais d'échange, quand vous êtes face à des gens qui ne croient pas un mot de ce que vous dites, qui considèrent que vous êtes là uniquement pour des mauvaises raisons. Eh bien, c'est très compliqué. Et je crois que si on n'arrive pas à rétablir cette confiance, pas seulement dans la politique, hein, la confiance aussi dans les experts, dans les figures d'autorité, hein, les enseignants, les scientifiques, les médecins, les forces de l'ordre, eh bien, je crois que c'est compliqué, effectivement, de construire un avenir commun. Donc c'est peut-être la leçon la plus marquante pour moi de cette séquence, et voilà, ce niveau de défiance très fort.
Alors, vous n'avez pas rencontré que les Gilets jaunes, hein, il n'y a pas eu que du mauvais, entre guillemets, durant ces 5 ans. Vous avez fait même des tournées. Alors, j'ai trouvé ça assez sympa, parce que vous avez fait la tournée des bistrots, des marchés, des forums, des associations, et beaucoup d'autres, d'ailleurs. Qu'en est-il ressorti de toutes ces rencontres ?
Alors oui, je souhaitais justement rétablir cette confiance-là. Et ce que je constatais aussi, et que je constate toujours, c'est que beaucoup de Français, d'une part, ignorent qui est leur député, et ont le sentiment, eh bien, que la politique, c'est l'affaire de quelques-uns, de gens qui parlent entre eux, qui s'écoutent d'ailleurs plus ou moins, et qui prennent des décisions sans concerter les Français. Donc je souhaitais aller à la rencontre des Français, qu'ils soient dans un bistrot, dans un marché, dans un bureau de tabac, finalement dans les lieux de vie de chacun d'entre nous. Et donc c'était assez intéressant, en effet. J'ai rencontré des gens qui ne savaient pas ce qu'était qu'un député, d'autres qui considéraient qu'ils n'avaient pas grand-chose à me dire, mais c'était aussi quand même l'occasion pour moi de mesurer cela. Et j'ai pu voir toute une diversité à la fois de situations et d'opinions. Et je trouve ça intéressant, parce que quand on est député, on est sollicité par des gens qui vous connaissent, mais finalement, ça reste un petit nombre de personnes, les gens qui ont l'habitude d'écrire à leur maire, à leur député, à leur sénateur, qui font partie éventuellement d'associations. Et je crois vraiment qu'une partie de notre mission, c'est de se faire connaître et d'aller à la rencontre d'un nombre beaucoup plus important, évidemment, de Français.
Alors, durant ce mandat, vous avez apporté de nombreux soutiens. Alors, on va y revenir. Je pense notamment, parce que ça nous touche particulièrement du côté d'Artenay, à la commune de Patay d'intégrer le programme Petite Ville de Demain. Je pense qu'on en parle pas assez. Ça touche nos éditeurs. Vous pouvez nous en parler un petit peu de ça.
Alors, PVD, Petite Ville de Demain, c'est un programme, en effet, qui est piloté par l'Agence nationale de cohésion des territoires, l'ANCT, que nous avons créé durant ce mandat et qui a pour objectif d'aider un certain nombre de communes rurales qui n'ont pas toujours des moyens suffisants pour mettre en œuvre de grands projets structurants. Et donc là, ce programme PVD, il permet de financer un poste de chargé de mission qui va faire plusieurs choses, qui va faire un diagnostic de territoire, qui va dire voilà quels sont les points forts et les handicaps du bassin de vie d'Artenay, plus largement, plus large que la seule commune d'Artenay. Et à partir de ces atouts et de ces, handicaps, on va construire un certain nombre de projets. Par exemple, salarier des médecins, construire une maison France Service pour qu'on ait un retour des services publics dans la commune d'Artenay, que vous puissiez venir directement dans cette maison France Service pour discuter de vos impôts, de vos amendes, de tout un tas de sujets comme ça avec l'administration. Réfléchir aussi aux équipements sportifs, culturels, aux moyens de transport. Et tout ça, il faut de l'argent, il faut quelqu'un, une personne qui soit dédiée à cette question-là. Et c'est ce que permet ce financement Petite Ville de Demain.
Très bien. Donc c'était important pour vous de soutenir tous ces projets.
Et évidemment, moi j'habite, si vous voulez, en milieu rural. J'habite à Huisseau-sur-Mauve et je suis convaincue qu'en ruralité, il y a beaucoup de ressources, il y a beaucoup de gens qui ont fait ce choix ou parfois pas ce choix, beaucoup de gens qui parfois habitent dans ces communes-là parce que c'est trop cher d'habiter dans les grandes métropoles, mais qui en tout cas ont un mode de vie qui est souvent plus écologique, avec parfois plus d'engagement dans un certain nombre d'associations. Et je crois que trop souvent, on a des décisions qui sont prises plutôt sur le modèle citadin. On l'avait vu au moment de la crise des Gilets jaunes, avec la colère des gens qui utilisent souvent la voiture. Évidemment, quand on est en ruralité, on utilise la voiture tous les jours, même si on souhaiterait s'en passer. On n'a évidemment pas ce choix-là. Donc oui, je trouve très important qu'on ait des projets, qu'on ait des financements spécifiques pour la ruralité, pour que chaque Français, quel que soit son lieu d'habitation, puisse avoir le même accès à la culture, au sport, à l'emploi et aux moyens de transport.
C'est vrai que sur Artenay, nous, on est assez bien fourni au niveau de tout ce qui est culturel, sportif, associatif. Mais là, on a pu le constater là, avec cette crise sanitaire, que malheureusement, il y a beaucoup de gens qui habitent en ville, maintenant désirent habiter dans le milieu rural. Sauf que dans le milieu rural, malheureusement, on s'aperçoit qu'on nous ferme de plus en plus les perceptions, on n'a plus de poste. Enfin, tous les services publics, on nous les enlève au fur et à mesure. Et malheureusement, à cause de tout ça, tous ces villages ruraux vont devenir en fait des villages dortoirs en quelque sorte, parce qu'il n'y aura plus de vie, il n'y aura plus de services publics. Donc est-ce que vous, à votre niveau, vous pouvez faire quelque chose afin que la poste, par exemple, ou la perception, vous voyez, sur Artenay, maintenant, il faut qu'on aille à Main-sur-Loire, alors qu'avant, on était à Patay, on a eu Artenay, après, elle est partie à Patay, maintenant, elle est sur Main-sur-Loire. Et c'est vrai que maintenant, on a quand même des personnes qui n'ont pas Internet, qui n'ont pas de moyens de transport pour se rendre dans ces lieux. Alors, on fait quoi ?
Eh bien, justement, on remet du service public et ce dont je vous parlais tout à l'heure avec la Maison France Service, c'est ce sur quoi je travaille avec, évidemment, les élus locaux, avec la communauté de communes dont dépend Artenay et aussi Patay, puisque c'est là que va être mise en place cette nouvelle Maison France Service. Et l'idée, c'est d'avoir, dans un même endroit, un accès au service de la poste, donc que la poste continue d'exercer, mais aussi, comme je le disais, les impôts, la CAF, la CPM, pourquoi pas, moi j'aimerais beaucoup, et j'y travaille aussi avec les services de l'État, qu'on puisse avoir dans cette maison France Service un accès au service proposé par la maison du droit, c'est-à-dire que quel que soit votre contentieux, hein, vous avez un problème avec, je ne sais pas, votre fournisseur d'électricité, votre garage ou un contentieux commercial, eh bien, vous puissiez avoir un accès à un avocat, à un juriste qui va vous dire ce qu'il faut faire, quel courrier il faut faire, qui il faut saisir. Et ça pourrait être un accès, disons, une matinée par semaine dans cette maison France Service. Donc, il y a beaucoup de services qui peuvent être construits et qui ne vont pas arriver tous en même temps. Mais à partir du moment où on a un lieu qui est itinérant, identifier des financements, des partenaires, eh bien, vous pouvez commencer à construire ce retour des services publics qui est évidemment tout à fait normal pour les gens qui habitent en milieu rural.
Il y a eu des victoires également pendant ce mandat. Je pense notamment à Duralex, du côté de la Chapelle Saint-Mémin. C'était important pour vous de soutenir les employés ?
Oui, évidemment, parce que on le sait, le Loiret est riche d'une industrie ancienne. Il y a un certain nombre d'emplois, il y a aussi un certain nombre de savoir-faire, mais parfois il y a des décisions stratégiques au niveau de la direction de l'entreprise qui font que malheureusement cette entreprise, cet appareil de production disparaît ou fait faillite. Donc oui, évidemment que c'est une victoire quand on voit que les salariés peuvent continuer à exercer, à transmettre leur savoir-faire, et que ce savoir-faire se retrouve même récompensé à l'Élysée, puisque cela montre encore une fois toute l'ancienneté et l'expertise de cette maison France dont on parle de plus en plus, mais dont on avait un petit peu oublié aussi toute la qualité, parce que on connaît bien les fleurons dans le secteur de l'aéronautique, dans le secteur du luxe, mais on oublie parfois ces savoir-faire plus traditionnels, mais qui sont en fait presque plus présents dans notre quotidien. Donc évidemment, c'est une fierté que de voir ce type d'entreprise récompensée et mise en valeur.
Il n'y a pas que ça, puisque vous avez aussi été mobilisé sur la question de la jaunisse des betteraves. C'est vrai que c'est important par ici. Alors qu'est-ce que ça a pu apporter ? Est-ce que vous avez pu apporter au gouvernement, leur montrer l'urgence un petit peu de ce qui se passait pour les agriculteurs ?
Alors oui, moi j'ai souhaité accompagner les agriculteurs. Évidemment, le secteur des betteraves est important dans le Loiret. Et à côté de la production de betteraves, eh bien, il y a évidemment toute la filière du sucre. Et on sait que c'est aussi, là encore, beaucoup d'emplois industriels en deçà de ces emplois agricoles. Et donc, au moment où il y a eu cette jaunisse, eh bien, j'ai sollicité avec d'autres parlementaires, hein, j'ai proposé à d'autres députés d'alerter le ministre de l'Agriculture, Julien de Normandie, pour qu'il soutienne la filière, pour lui permettre de faire face, parce qu'on sait qu'une mauvaise année, deux mauvaises années, trois mauvaises années, eh bien, cela peut conduire les agriculteurs à arrêter cette production et à finalement faire que la filière, et on l'a vu pour la sucrerie de Toury, eh bien, on peut arriver à la fermeture, là encore, une fois, d'un appareil de production qui est évidemment important dans le paysage loiretain.
Alors, au niveau national, maintenant, à moins que tu aies une question, on reviendra sur la crise sanitaire, sur la crise sanitaire après. Au niveau national, et on en avait parlé l'an dernier, si je me rappelle bien, vous avez beaucoup parlé de la légalisation du cannabis. On vous voit pas mal en ce moment sur les plateaux télévision sur cette question. Où on en est aujourd'hui de cette question, qui est une grande question pour vous, ce que vous...
Alors, on arrive à, effectivement, peut-être pour rappeler rapidement ma position, moi je considère qu'on est aujourd'hui dans une situation d'impasse parce que les Français sont les plus gros consommateurs d'Europe de cannabis et on est aussi de gros consommateurs pour la tranche des plus jeunes. Hein, nos jeunes consomment deux fois plus que la moyenne européenne et également s'agissant des usages problématiques du cannabis, c'est-à-dire des cannabis qui sont plus dangereux, du cannabis de synthèse, de la résine coupée à d'autres substances. Donc on voit bien qu'on a un échec sur la consommation globale, mais aussi sur les conduites qui encore aggravent le risque associé à la consommation de cannabis. Et donc moi, ce que je propose, c'est qu'on mette en place une légalisation encadrée, c'est-à-dire que l'État reprenne la main sur cette situation qui est aujourd'hui gérée par des criminels. Et cela ne veut pas dire que l'on ouvre et qu'on libéralise et qu'on a une approche laxiste du sujet, puisqu'on peut justement durcir les peines. Hein, au Canada, par exemple, c'est 14 ans de prison si vous vendez du cannabis à un mineur ou si vous faites appel à un mineur dans la distribution ou la production de cannabis. Donc la situation actuelle, c'est qu'effectivement le gouvernement y est défavorable, mais nous arrivons à une période où nous allons remettre à plat nos projets politiques, hein, La République en marche compris. Et moi, j'espère et je travaille à ce que, lors de ce débat de l'élection présidentielle de 2022, eh bien, la famille politique à laquelle j'appartiens, La République en marche, intègre dans ses propositions la mise en place d'un débat, d'une convention citoyenne, d'un référendum, quel que soit le modèle choisi, sur ce sujet d'une légalisation, d'une dépénalisation du cannabis. Donc voilà, c'est aujourd'hui, ça fait partie des hypothèses. Tout cela n'est pas encore à arbitrer. Nous avons un débat au sein de La République En Marche sur ce sujet. J'ai des collègues qui sont favorables à la légalisation, d'autres qui y sont opposés. Et donc nous verrons au moment où nous présenterons notre programme ce qui y figurera.
C'est pas un peu le débat qui tourne en rond dans tous les gouvernements depuis des années? On se rend compte qu'on en parle très souvent à chaque gouvernement, mais jamais rien n'est fait au final. Est-ce que le gouvernement vraiment veut faire quelque chose là-dessus?
Alors, c'est surtout que jusqu'à présent, les Français n'ont jamais voté pour un candidat qui avait dans son programme la légalisation du cannabis. C'est aussi simple que cela. C'est-à-dire que...
Mais le sujet revient tout le temps.
Oui, en 2017, Emmanuel Macron n'avait pas dans son programme la légalisation du cannabis. Donc moi, ce que j'espère, c'est que ça le sera en 2022. Il me semble que la société française a évolué sur ce sujet-là. Il y avait beaucoup de fantasmes, beaucoup de craintes et beaucoup de méconnaissances aussi de ce sujet-là. J'ai entendu, ici dans ce département, hein, des gens me dire « Ah bah, Karine Janvier, oui, c'est vous qui êtes pour le cannabis. » Et je leur dis « Attention, ça n'est pas ça du tout. Je dis juste qu'aujourd'hui, les risques et les dangers sont maximisés par la situation actuelle, puisque... on ne contrôle pas, on n'établit pas de contrôle sanitaire des substances, on ne contrôle pas, évidemment, l'âge des consommateurs, hein, les dealers ne demandent pas à un mineur s'il est mineur ou majeur, on ne contrôle pas la façon dont on produit aussi du cannabis, il n'y a absolument aucun contrôle qui est fait, et alors même qu'on a 5 millions de consommateurs de cannabis. Donc voilà, moi ce que je dis, c'est qu'il faut qu'on regarde ce sujet-là en face et qu'on étudie comment est-ce qu'on met en place un modèle régulé, encadré, contrôlé par l'État. Et je crois qu'aujourd'hui, vous avez entendu Anne Hidalgo qui est favorable à la mise en place d'une conférence de consensus sur ce sujet-là. Je crois qu'aujourd'hui, on a déjà avancé par rapport à 2017. Est-ce qu'on a suffisamment avancé pour faire des propositions différentes? L'avenir proche nous dira.
Vous avez également fait un appel en vue d'élaborer une loi contre la surexposition des enfants aux écrans, ce qui pourrait être, je cite pour vous, le mal du siècle. Je trouve ça très intéressant. Est-ce que vous pouvez nous en parler et peut-être en parler à nos auditeurs qui ne connaissent pas cette loi que vous aimeriez élaborer?
Alors,
avec les Français en plus.
Tout à fait. Moi, ce que je propose, c'est une démarche participative, c'est-à-dire que l'ensemble des Français qui s'intéressent à cette question peuvent participer. J'en profite pour vous dire le nom du site internet. Donc sur le site Purpose, P-U-R-P-O-Z.
On vous le mettra sur le Facebook de Radio Vague.
Voilà, jusqu'au 4 février, vous pouvez donner votre avis déjà sur l'intérêt ou pas d'une telle proposition et après ce que vous souhaiteriez voir figurer dans cette proposition de loi. Moi, le point de départ de ma réflexion, c'est de dire aujourd'hui, on a des enfants de 2 ans qui passent une heure devant un écran, des enfants de 3 à 10 ans qui passent 2 heures par jour, hein, c'est pas le chiffre par jour, devant un écran, alors même qu'on sait, et ça on a de plus en plus d'éléments scientifiques là-dessus, qu'une exposition trop importante et trop précoce, c'est-à-dire moins de 3 ans, moins de 6 ans, moins de 9 ans, évidemment plus on est jeune, plus c'est ennuyeux, eh bien ça a des effets sur beaucoup de choses. D'abord sur le langage, hein, une surexposition entraîne 6 fois plus de risques de troubles primaires du langage chez un enfant. Et quand on sait que le nombre de mots qu'un enfant possède, sa maîtrise du langage, eh bien, c'est ce qui va lui permettre d'être performant ou non à l'école. Hein. La maîtrise du langage, elle explique pour beaucoup la performance et la réussite scolaire. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est l'effet sur la qualité et la quantité du sommeil. Une heure d'écran réduit de 15 minutes la durée du sommeil. On a aussi des effets sur l'alimentation. Hein. Ça multiplie le risque d'obésité. Sans parler même de la sédentarité que cela génère. Évidemment, quand vous êtes devant un écran, vous êtes plus facilement immobiles. Donc on a beaucoup d'effets qui sont majeurs, qui sont importants, et on a aujourd'hui des parents qui sont au courant, mais pas toujours au courant du niveau de risque, d'autres qui le sont moins, et des professionnels qui sont formés pour certains et pas pour d'autres. Et moi, ce que je voudrais, c'est qu'on mette en place une loi, une politique de santé publique pour sensibiliser les parents d'une part, former tous les professionnels en contact avec les enfants, des assistantes maternelles aux puéricultrices en passant par les enseignants, les éducateurs. Ensuite, réguler l'utilisation d'écran dans les lieux d'accueil des enfants. Qu'on n'ait pas, par exemple, des enfants qui vont à la garderie et qui sont exposés le matin, pendant la pause méridienne et après l'école entre 4h et 18h. Et enfin, qu'on ait une vraie politique de prévention avec des messages d'information sur le carnet de grossesse, un site internet qui permette à tout le monde d'avoir le niveau d'information égal, des campagnes de sensibilisation. Bref, qu'on en fasse une priorité et qu'on crée une politique de santé publique sur ce sujet-là.
C'est vraiment de l'information informée un maximum, le public plutôt des parents pour se... Mais alors moi j'avais trouvé sur ce site, parce que c'est très bien, tout le monde peut dire un petit peu son accord et son désaccord, j'avais trouvé une question qui était plutôt intéressante, qui disait comment peut-on être aussi binaire alors que l'on pousse les enfants à suivre les cours en ligne, ce ne sont pas les écrans qui sont nocifs, mais les contenus qui peuvent l'être, en particulier sur les réseaux sociaux, car ils sont insuffisamment régulés. C'est vrai. Comment on peut dire aujourd'hui à des enseignants d'expliquer aux enfants de ne pas aller trop sur les ordinateurs quand aujourd'hui on les pousse à faire des cours en ligne ?
Alors, il y a plusieurs choses. Il y a d'une part la durée. La durée en tant que telle, si elle est nocive. Un enfant de moins de 3 ans ne devrait pas du tout être exposé à un écran. Voilà. Ensuite, il y a la question... Donc ça, c'est vraiment l'exposition, quel que soit le contenu. Ensuite, il y a la question du contenu, qui est, à mon avis, un énorme sujet aussi.
Très important.
Toute la question du cyberharcèlement, de l'addiction aux réseaux sociaux, de l'exposition à la pornographie. C'est aussi un sujet, moi, dont on me parle beaucoup. Et il y a enfin un autre sujet qui est celui de l'âge. Et là, vous me parlez de l'accès à des adolescents ou à des jeunes ou à des enfants à des écrans pendant le temps scolaire. Et là, le facteur qui est important, c'est effectivement la façon dont on utilise l'écran quand on a donc plus de 6 ans, plus de 9 ans, plus de 12 ans, où en effet, on voit bien que une utilisation médiatisée par un tiers, par un parent, par un enseignant, par un éducateur, n'a pas du tout le même effet sur, encore une fois, les apprentissages et sur tous les risques que je vous disais. Donc effectivement, utiliser un écran quelques dizaines de minutes, pourquoi pas plus, par jour, à l'école, avec un enseignant qui intervient, ça n'est pas du tout la même chose que mettre un enfant de 2 ans, de 3 ans, pendant tous ses repas devant un écran.
N'a pas la même répercussion, effectivement.
Exactement.
Et justement, le cyberharcèlement, parlons-en, parce que c'est très important. Qu'est-ce qu'on peut faire face à ça ? Vous en êtes d'ailleurs victime. Moi, je me suis un petit peu baladé sur Twitter, et alors, les députés, aujourd'hui, en sont, surtout La République En Marche, en sont victimes. Vous l'êtes également. Que faudrait-il faire ?
Alors, on a voté une loi sur cette question-là. Une de mes collègues, Laetitia Avia, a beaucoup porté le fer en disant qu'il fallait qu'on fasse appliquer sur les réseaux sociaux les mêmes règles, et donc le fait de punir l'incitation à la haine, les injures, les mises en cause du fait de l'origine ethnique, religieuse, sexuelle. Donc, on a déjà fait un certain nombre d'avancées là-dessus. Maintenant, effectivement, on est, je crois, au début du chemin. Pourquoi ? Parce qu'il va falloir qu'on construise un modèle des régulations et qu'on contraigne davantage les plateformes à faire de la modération, à mettre des moyens sur cette question-là, à être plus réactives lorsqu'elles suspendent des contenus qui sont offensants et qui sont délictuels. Donc, effectivement, là-dessus, il y a encore un travail. Et malheureusement, comme vous le savez, ces acteurs-là, ils débordent du cadre national, et donc c'est beaucoup plus compliqué de faire appliquer une loi française à des acteurs qui ne sont pas français.
Ça vous pèse, vous, personnellement, ce qui se passe en ce moment sur les réseaux sociaux, et notamment avec les députés, les violences que subissent les députés sur les réseaux sociaux ?
Moi, je vais vous dire, les réseaux sociaux, j'y accorde une importance dans le sens où c'est un outil de travail, je communique beaucoup dessus et je vais pouvoir prendre en compte des retours, mais je vais distinguer les comptes qui sont, je dirais, officiels, avec des personnes qui donnent leur nom, leur prénom et dont je sais d'où ils parlent et quelle est leur position, éventuellement leur opinion, de comptes qui sont anonymes, dont je ne sais même pas s'il ne s'agit pas de fermes de bottes qui sont localisées, je ne sais d'où. Et c'est vrai que moi, les gens qui vont de façon anonyme m'insulter, me menacer, maintenant, je perds plus beaucoup de temps avec ça et je vais vous dire, je les bloque directement ça ne me fait pas grand-chose, effectivement. Je crois qu'il ne faut pas accorder non plus trop d'importance à ce qui se passe dans les réseaux sociaux. Ça peut être intéressant, mais ça n'est pas un lieu qui est, je crois, le reflet exact de la réalité.
Oui, puis c'est peut-être la meilleure des solutions au final pour arrêter tout ça. On va finir donc sur la cause nationale, avant de parler bien sûr de la crise sanitaire, parce qu'on est obligé. Je voulais revenir en 2019, vous avez décidé de boycotter la chaîne CNews, notamment à cause de l'émission présentée par Christine Kelly, qui pour vous donnait une tribune à Éric Zemmour. Pourquoi cette prise de décision qui n'a pas forcément été bien vue par tout le monde dans le Loiret et dans votre circonscription ?
Eh bien parce que de la même façon qu'une chaîne d'information, qu'un média quel qu'il soit, donne la parole à qui il le souhaite, en tant que personne politique, moi je peux refuser ou accepter d'aller dans un média qui ne me convient pas. Et voyez, des médias... Tout le monde comprendrait très bien qu'un média écrit, la presse écrite d'extrême droite, qui est reconnu comme tel depuis telle d'année, depuis beaucoup d'années, et bien tout le monde comprendrait très bien que je refuse de leur répondre. Hein. Et à l'inverse, quand on parle de CNews, et bien là, on brandit la liberté d'expression. Moi, je crois qu'il y a eu un moment où CNews utilisé une forme de notoriété, d'audimat très large pour masquer une ligne éditoriale qui s'est de plus en plus rapprochée d'un positionnement politique que je combats. Et moi, l'extrême droite, effectivement, je n'ai pas le même positionnement vis-à-vis de ce positionnement-là que vis-à-vis d'autres. Mais encore une fois, c'est mon choix de dire « je refuse d'aller sur un média qui promet une ligne politique que je considère comme vraiment trop éloignée de mon positionnement ». Mais encore une fois, je n'ai pas construit une proposition de loi pour interdire, pour fermer ces news. Mais j'ai refusé de m'y rendre parce que je refuse de participer à la popularisation d'idées qui me semblent dangereuses pour la cohésion nationale.
Est-ce que justement, ce n'était pas les combattre que d'y aller
Non, parce que si vous voulez, vous avez...
On fait le jeu après votre compte.
Vous avez certains plateaux qui sont... Et qui d'ailleurs, c'est là où je trouve que c'est très dangereux, c'est que finalement, ce sont parfois plus pour des raisons économiques, parce que le buzz, le clash, les idées radicales, extrêmes, eh bien, elles attirent malheureusement plus de téléspectateurs que le débat plus mesuré et peut-être plus centriste. Donc pour des raisons économiques, même pas pour des raisons, je dirais, idéologiques, on a un certain nombre d'opinions qui sont plus visibles que d'autres. Mais moi, je n'ai pas envie de contribuer à ça. Et je vais vous dire, parfois, je suis allée sur certains de ces débats. J'ai débattu avec des gens comme Jean Messia. Mais j'ai envie de dire, les dés sont en réalité pipés parce que la phrase excessive, parfois malhonnête, parfois mensongère, va en réalité avoir beaucoup plus d'écho qu'une position équilibrée, peut-être plus proche de la vérité. Donc, à un moment donné, vous faites des choix et moi, j'ai envie de mettre mon énergie dans des combats que je pense plus honnêtes, plus équilibrés et qui correspondent plus, en effet, à mon positionnement. Et c'est un choix que je fais. Ce n'est pas une obligation que je demande de généraliser.
Et je trouvais important de le rappeler. On va revenir sur la crise sanitaire. Alors Annie, qui est avec moi, qui est habitante d'Artenay, l'une des meilleures animatrices d'ailleurs de cette radio. Et en plus, donc, tu bosses à la pharmacie d'Artenay.
Voilà, qui est dans le milieu médical.
Voilà, donc c'était intéressant effectivement que tu sois là pour parler avec Caroline Janvier, avec Madame la députée.
Madame la députée, voilà, ouais, en ce moment, c'est vraiment une vraie grosse crise sanitaire. Et c'est vrai que là, avec ce nouveau variant, ces nouveaux protocoles, on s'en sort plus, quoi. C'est test sur test. Alors, il faut qu'on gère les tests antigéniques, il faut qu'on gère les vaccinations. Entre autres, il faut qu'on gère aussi notre profession. Et c'est vrai que là, on arrive un peu à un block-out. Est-ce que vous, à votre niveau, il serait possible de rouvrir des centres de vaccination plus qu'il en existe actuellement ? parce qu'il n'y en a pas assez. Les gens n'ont pas eu encore, il y en a qui n'ont pas eu encore leur deuxième dose, qui ont le vaccin pour la deuxième dose. Il y en a qui, grâce, on va dire un peu à ce qu'a dit Monsieur le Président, ont décidé de se faire vacciner. Donc il faut qu'on les vaccine aussi pour la première dose. Il faut qu'on vaccine pour la troisième dose. Donc il faut qu'on gère tous ces trucs de vaccination, qui est très compliqué. Et en plus, en ce moment, donc il faut qu'on fasse tous les tests antigéniques. Et c'est très compliqué à tout faire. En plus, il faut qu'on délivre des autotests, autotests qui malheureusement n'arrivent pas. On est en rupture d'autotests. Donc on les reçoit par petits paquets de 100, 200. Donc c'est très difficile de délivrer des autotests. Alors, vu toute cette situation, est-ce qu'il serait prévu d'ouvrir des centres de vaccination ? Et deux, des centres pour faire des tests, parce que, je sais pas, vous avez dû le voir sur Orléans, moi j'y suis allée là samedi, les queues qu'il y a devant les pharmacies, c'est impressionnant, on n'a jamais vu ça. Nous, dans notre milieu, c'est pareil, à Artenay, c'est pareil, on a des queues pour faire se tester, à Chevilly, c'est pareil, Pathé, c'est pareil, Orgères, c'est pareil, on n'en peut plus, quoi. Donc, est-ce qu'il serait prévu d'ouvrir des centres, voilà, pour... qui est moins de soucis dans toutes les professions.
Alors, il y a deux choses. Il y a la question des tests et la question de la vaccination. Moi, quand je regarde sur des applis comme Vite ma dose, je vois qu'il y a encore des créneaux qui sont disponibles. Enfin, il n'y en a pas pour les 5-11 ans. Pas suffisamment, mais tout voilà, cela va se développer.
Il faut qu'on vaccine les enfants.
Et effectivement, il va falloir qu'on y vienne. Donc, il va falloir qu'on augmente ces capacités de vaccination-là. S'agissant des tests... vous avez tout à fait raison, et on se retrouve dans une situation aujourd'hui compliquée, et on est un certain nombre de collègues à avoir alerté le gouvernement sur ces questions-là, et on attend en effet des réponses et des solutions concrètes, même si ce que l'on dit depuis maintenant plusieurs mois, la meilleure réponse, ce n'est pas la seule, mais la meilleure réponse, c'est évidemment la vaccination. Voilà. C'est pour ça que moi, je distinguerais bien les deux. C'est-à-dire qu'il ne faut pas considérer que le test permet d'éviter la vaccination. Ça n'est certainement pas le cas.
Non, mais c'est vrai
les pharmacies ne peuvent pas être le lieu où tout converge et où les gens vont à la fois se faire vacciner, faire tester.
C'est notre rôle, mais c'est vrai qu'en ce moment, vous pouvez aller voir dans toutes les pharmacies.
Oui, mais...
Il faut qu'on gère les tests, il faut qu'on gère les vaccinations et en même temps, il faut qu'on gère nos délivrances. Donc, c'est vrai qu'en ce moment, c'est très compliqué.
Oui, tout à fait. Mais voilà, moi, la seule chose que je peux vous dire là, c'est que nous en sommes dans une phase où nous avons alerté le gouvernement, de la même façon que nous l'avons alerté sur la mise en œuvre des protocoles à l'école, qui évidemment posent beaucoup de difficultés. Et nous allons voir, mais j'espère effectivement que dans les jours à venir, nous allons avoir des solutions concrètes, y compris pour le territoire du Loiret.
D'accord.
Alors pour finir, est-ce que vous avez quelques mots pour 2022 à nos auditeurs ?
Eh bien écoutez, c'est assez classique hein, de souhaiter une bonne santé à chacune et chacun d'entre nous, mais je crois que ces derniers mois ont montré à quel point la santé est en effet le préalable à beaucoup de choses, hein, à une vie normale. Donc je souhaite cela à chacun d'entre nous, évidemment. Je souhaite aussi que chacun peut-être ait une forme de responsabilité dans la séquence que nous vivons et prenne conscience aussi que son comportement individuel, eh bien, il a un impact sur le collectif et que nous avons évidemment tous hâte de sortir de cette situation et d'avoir une vision enfin à plus long terme avec un retour à la vie normale. Voilà, donc une très bonne année à chacune et chacun d'entre nous et j'espère que voilà, chacun grâce à un sens civique eh bien, fera ce qu'il faut pour protéger les autres.
Et à vous, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour 2022 ?
Eh bien, écoutez, la même chose.
Bien joué. Merci à vous, Caroline
Merci
Janvier,
à vous. Merci.
Députée de la deuxième circonscription du Loiret. Merci à toi, Annick.
Merci, François.
Et puis, on se retrouve bientôt.
Bientôt, le 23.
Très bien, avec le maire d'Artenay, voilà. David Jacquet. Bonne journée à tous à l'écoute de Radio Vague.
Merci à vous.